19h-20h, conversation chez La Pérouse avec Frédéric Becbédé sur Radio Classique.
Oh, comme je suis content! Bonsoir tout le monde, je suis très très heureux de recevoir François Sureau de l'Académie française qui publie S'en aller chez Gallimard, mais qui m'a promis de rester.
Ah, j'en ai bien l'intention. Voilà.
Vous allez rester pendant toute l'heure ?
Je vais rester pendant toute l'heure.
Et pourtant, vous avez passé une vie à décamper. Vous ne faites que cela, décamper. Vous avez démissionné du Conseil d'État, vous êtes parti vous engager dans la Légion étrangère. Vous avez arrêté d'être avocat, puis vous l'êtes redevenu, puis vous avez évité la vie en entreprise. Enfin, pourquoi cette poudre d'escampette ?
Oh, c'est très difficile. Je suis pas sûr que ça présente un intérêt considérable.
Ah oui, voilà, mais c'est bien ce que je pensais. Il va s'en aller.
Oui, voilà. Je vais fuir par les. Non, je suis pas sûr que ça. Enfin, je sais pas. J'imagine que ma vie, comme toutes les vies, est faite d'un ensemble de hasards. La seule chose dont je ne suis pas vraiment parti, en réalité, c'est les livres. J'aurais passé beaucoup de temps à en lire et à en écrire. Et au fond, c'est mon véritable endroit, mon véritable lieu. Et j'ai l'impression maintenant, non pas que le grand âge s'annonce, mais enfin maintenant que j'ai vieilli, je me rends compte de manière beaucoup plus claire que ce qui m'apparaissait au début, en tout cas, c'est que toutes ces espèces d'errances variées étaient faites pour, d'une certaine manière, me permettre d'écrire des livres et de rendre compte de manière plus précise de ce que je croyais être l'air du temps. Dans les années 80, par exemple, dont vous vous souvenez mieux que personne, c'était quand même des années assez étonnantes. Alors comme j'étais pas très adonné ni à l'alcool, ni au paradis artificiel, ni etc., je me suis au moins laissé tenter par les aventures capitaliste de cette époque, qui était quand même très, très prenante, avec des fortes débauches d'énergie. Et puis, après, il y a eu cette autre chose anecdotique, qui n'était aucunement, mais je veux dire, cette autre chose extérieure, au moins, qui était la guerre en Yougoslavie. C'est là où j'ai commencé à m'engager, si je puis dire, ouais. Parce que il me paraissait assez étrange, alors que, en fait, les gens qui m'avaient précédé, généalogiquement, avaient tous connu la guerre, plus ou moins, d'être le seul à ne pas la connaître. Et donc, j'ai voulu voir à quoi ça ressemblait. Ça n'est pas brillant, d'une certaine manière, parce qu'on peut se dire qu'on y est allé en touriste, mais ça n'était pas réellement ça, ou en tout cas, pas seulement
non,
ça.
Non, mais il n'y avait pas que la Yougoslavie. Vous êtes allé en Afghanistan.
Alors ça, une fois que le pli est pris, et ce dont je me rends compte maintenant, je me rendais compte déjà à l'époque, c'est que j'y suis pas allé pour des raisons fondamentales, j'y suis pas allé pour des raisons principielles. J'y suis allé à raison de l'expérience humaine que ce genre d'endroit fait naître, et des relations très particulières qu'elle fait naître entre les personnes qui y sont engagées. Par exemple, la Yougoslavie a quand même été un épisode assez lamentable de l'histoire européenne. L'Afghanistan, j'ai quand même été, comme beaucoup de gens qui ont servi, très triste au moment de la chute de Kaboul, laquelle était entièrement prévisible. J'ai servi en Afrique et on voit comment ça s'est terminé. Dans tous les cas.
Mais en fait, partout où vous êtes allé, ça a été un échec. Je vous félicite pas.
Absolument. Je ne m'en sens pas absolument le seul responsable. Mais c'est vrai que, voilà. Et au fond, c'était aussi une manière de rejoindre peut-être, les écrivains que j'avais aimés, et qui, pour la plupart d'entre eux, au fond, avaient été mêlés aux circonstances de leur temps.
Oui, Romain Gary,
Kessel,
oui, bien sûr, Malraux. Mais vous êtes en train de dire que vous cherchiez quelque chose à raconter, et donc vous êtes parti le vivre pour pouvoir l'écrire ensuite. C'est un peu comme fait Sylvain Tesson, sauf que vous êtes peut-être sur des endroits où il y a plus de bombardements.
Oui, alors. Est-ce que c'était quelque chose à raconter ou est-ce que c'était parce qu'il y a toujours quelque chose à raconter au fond. Je resterai un Proustien fanatique par exemple et il n'a quand même pas absolument besoin d'aller.
Oui, mais il est sorti de sa chambre pendant quelques années. Il est sorti de sa chambre pour aller dans des salons.
Exactement.
Comme moi.
Il n'y a pas de bon lieu pour l'expérience littéraire ni de mauvais. Mais c'est moins quelque chose à raconter au sens où on serait en panne et on chercherait des histoires à dire. Mais c'est plutôt avoir cette idée, alors qu'on a toujours voulu raconter, c'est-à-dire faire de la littérature, qu'il y a des endroits, pour soi en tout cas, où le récit naît dans des conditions de brutalité et de vérité tout à fait passionnantes. C'est ça qui m'a, c'est ça qui m'a, voilà. En revanche, j'ai quitté tous les endroits où il ne se passait rien. Ça, ça, c'est sûr, parce que j'avais cru naïvement qu'il s'y passait quelque chose, et en fait, il ne s'y passait rien.
Votre premier choix musical, c'est une danse hongroise de Brahms, la numéro 1. Et ça n'est pas surprenant parce que Brahms s'est inspiré de la musique Zigane pour écrire cette musique, et vous êtes un peu le Zigane de l'Académie française. C'était la danse hongroise numéro 1 de Johannes Brahms, interprétée par André Gorog au piano en 2012. Et je suis toujours assis en face de François Sureau, chez La Pérouse, dans un salon obscène de confort. Alors, dans la préface aux histoires extraordinaires de Charles Baudelaire écrit qu'il y a deux droits fondamentaux, c'est le droit de s'en aller et le droit de se contredire. Et puis ça a été repris dans un des plus beaux films des années 70, La maman et la putain de Jean Eustache en 73, où Jean-Pierre Léaud dit ça. Voilà, il y a un des droits oubliés dans la Déclaration des droits de l'homme de 1789, c'est le droit de se contredire et le droit de s'en aller. Alors vous avez écrit S'en aller chez Gallimard qui vient de sortir, mais allez-vous écrire Se contredire? C'est ça que je me demande.
Ben, je n'ai pas besoin de l'écrire, je me suis assez souvent contredit. Et donc non, je pense que mes contradictions portent, enfin voilà, elles valent déjà pour elles-mêmes. Ce qu'on a entendu là sur le je suis toujours touché par cette musique, mais depuis longtemps. On parlait de l'histoire, on parlait du fait de s'en aller, etc. Il y a un personnage du Yiddishland que j'aime énormément, enfin qui est... C'est que le juif errant, contrairement à ce qu'on pense, est une légende chrétienne. Il existe dans la culture juive d'Europe centrale, un personnage extraordinaire dont Chagall a fait un magnifique portrait qui s'appelle le Luftmensch, c'est-à-dire l'homme de l'air. Et Chagall en fait un portrait extraordinaire d'un type avec un baluchon et une sorte de chapeau haute forme qui traverse les murs, voilà. Ouais. Et c'est tout ce qu'on sent dans cette musique, et c'est tout ce qui anime le désir de s'en aller, en effet.
Vous avez dit chez Trapenard et chez Salamé que vous aimeriez finir en goy errant.
Ah oui, c'est mon... Enfin, finir, j'ai l'impression de l'être déjà, quoi. Hein.
Mais ça veut dire quoi, exactement? Parce que, donc, le juif errant, c'est un immortel qui voyage en dehors du Quai Conti.
Exactement.
Mais qu'est-ce que c'est un goy errant?
Alors, le goy errant, c'est celui qui, d'une certaine manière, partage avec le juif errant cette idée que son errance ne s'arrêtera pas, mais comme il n'est pas juif, il est donc goy. Et donc, c'est donc le goy errant. Par ailleurs, en effet, on peut être, je pense... Enfin, j'ai fini par découvrir qu'on pouvait être le juif errant d'une seule vie, et donc en ce qui me concerne, le goy errant d'une seule vie, c'est-à-dire passer son temps à essayer de traverser les murs d'un endroit à l'autre dans l'espoir de recueillir des échos de ce qu'il y a de l'autre côté du seul mur qui nous importe et qui est, j'en demande pardon aux auditeurs, et qui est la mort.
Voilà. Oui, et l'intérêt de ce livre, c'est que vous parlez exactement de ça, en fait. C'est-à-dire que vous encensez de nombreux déserteurs, Hugo à Guernesey, Pierre Loti en Chine, Patrick Liefermore dans les Balkans, Henri-Jean-Marie Levet, j'en passe. Que des gens qui ont rêvé, qui ont voyagé en vrai ou en faux. Mais c'est pour éterniser quelque chose.
Oui, il y a dans ces voyages d'abord un regret du monde parfait qui n'est pas là. Et une anticipation tout à fait étrange, y compris chez les agnostiques, comme Liefermore d'ailleurs, hein, une anticipation tout à fait étrange de cet autre monde qui pourrait peut-être nous attendre, dans lequel nos parcours terrestres finiraient par trouver un sens. Et c'est ça qui m'a toujours touché chez eux.
J'aimerais bien vous demander de lire un extrait que j'ai choisi, de S'en aller, pour qu'on comprenne à la fois votre projet et votre style.
Quand je lis les auteurs fin de siècle, je suis tour à tour convaincu par chacun d'entre eux et que leurs raisons d'approuver ou de détester sont les bonnes. Je crois avec Léotot que le style était meilleur du temps de la plume d'oie et des lampes à huile, avec Apollinaire que l'industrie est le charbon du rêve et que le cubisme mérite d'être défendu. Je crois avec Alain aux vertus du gouvernement radical arrêté, tempéré, avec Barrès que le kantisme plat de cette mauvaise époque et de Burdeau est insusceptible de nous refaire une âme complète. Avec Claudel que Ligugé, ou à défaut le Japon, valent mieux que Viviani, qui prétendait éteindre dans le ciel des étoiles qu'on ne rallumera plus et finit au cabanon. Avec Bergson, avec Proust, à la fécondation du présent par la mémoire. À la fin, je suis désorienté comme par cette époque où je vis, l'aimant et la détestant tour à tour, mais essayant d'y voir les allées d'un salut imprécis, vaguement entrevu pour tous et pour moi-même. Vous avez la réponse à la question sur la contradiction.
Voilà. Mais je fais les questions et les réponses dans cette émission. Hein.
C'est extrêmement bien.
Mais ce qu'il y a d'intéressant quand on entend votre écriture, lue par vous, c'est cette densité. Il y a à la fois beaucoup d'érudition, pas mal de citations, et en même temps, derrière cette armure de culture, vous vous foutez à poil, si je puis dire.
C'est un mélange être à poil sous une armure est sans doute pas une destinée à laquelle on puisse rêver facilement, mais en tout cas, il y a de ça, je pense, alors... C'est très difficile, évidemment. Enfin, vous savez que personne ne parlait d'un livre qu'on a essayé d'écrire ou de parler de soi à propos d'un livre qu'on a essayé d'écrire pour parler de soi, ce qui ajoute la difficulté à la difficulté. Mais il est clair que j'ai souvent entendu la remarque sur l'érudition. En réalité, je pense qu'il y a plusieurs catégories d'auteurs. Il y a les auteurs pour lesquels la littérature est à ce point partie de leur vie qu'ils parlent des auteurs qu'ils aiment ou qu'ils citent les auteurs qu'ils aiment exactement comme ils parleraient d'un goûter chez leur grand-mère.
Oui.
Et puis il y a ceux qui, à chaque moment, paraissent inventer quelque chose. C'est marrant, par exemple, André Breton, que j'aime beaucoup, qui était tout à fait révolutionnaire d'une certaine manière, est un auteur érudit, empêtré et généalogique. Il passait son temps à faire des généalogies. Apollinaire l'est aussi. En revanche, Chateaubriand, qu'on pourrait croire absolument réac et traditionnel, est un auteur qui ne s'autorise que de lui-même. Dans l'itinéraire.
C'est peut-être l'orgueil aussi, c'est peut-être un manque d'humilité de Chateaubriand.
Peut-être, mais en tout cas, je pense qu'il pense que le monde est né après. D'une certaine manière, bien qu'il ait été extrêmement nostalgique et qu'il ait multiplié les références érudites dans l'itinéraire de Paris à Jérusalem, il pense en réalité que le monde est né après lui, qu'il n'est pas simplement quelqu'un qui s'immerge dans un courant.
Et ça, non, mais ça, je vous disais pas ça d'une manière agressive. Hein. Je pense
Non, je pense pas, mais je me suis interrogé là-dessus moi-même.
Oui, c'est-à-dire là, je vous fais lire un paragraphe qui fait 10 lignes. Il y a Léoto, Apollinaire, Alain, Barrès, Claudel, Bergson, Proust. C'est-à-dire que pour vous comprendre, le lecteur doit quand même avoir un minimum de bagage. Et je trouve que c'est très agréable quand on vous lit, parce que vous faites partie des écrivains qui ne prennent pas les lecteurs pour des cons.
Ah non, ce lecteur que je ne vois pas, d'une certaine manière, j'écris pour lui exactement comme j'aime à penser que Laurence d'Arabie, Henri Levet, voilà, ont écrit pour moi. C'est-à-dire que j'espère à certains moments pouvoir l'accompagner.
Comme Larbeau, vous parlez beaucoup de Larbeau, et c'est vrai que c'est
tous ces auteurs m'ont accompagné.
Cette famille-là, cette famille-là. Deuxième choix musical de François Sureau, c'est Franz Schubert, Impromptu numéro 3. Et bien sûr, c'est Vladimir Horowitz au piano en 1963. C'était Vladimir Horowitz qui interprétait l'impromptu numéro 3 de Schubert. Vous avez donc ce point commun avec Bruno Le Maire d'aimer Horowitz.
Oui, alors Horowitz, c'est fascinant parce que on a parlé de trois choses, les années 80, Valérie Larbeau et Horowitz. Et pour moi, ces trois choses sont mélangées entre elles parce que dans la folie des années 80, il se trouve que j'ai fait l'un des derniers, enfin la boîte pour laquelle je travaillais m'avait payé un voyage en Concorde pour aller de Paris à New York. Donc je vais en Concorde, j'ai eu la chance de prendre
le
Concorde.
Génial. Moi, je l'ai pris une fois aussi, c'était incroyable.
Une fois, c'était fantastique et je me trouve absolument un truc étroit. Et alors, à droite, il y a un personnage que je regarde comme ça vaguement et qui me paraissait ressembler à Benjamin Disraeli, vous savez, des Ratejude d'Assès Derman, avec un nœud papillon, etc. Et qui était assez fascinant parce que à chaque fois qu'il y avait un trou d'air, il sautait en poussant des cris de bête, comme s'il était content que tout finisse. Oui. Et puis j'ouvre un livre de Valérie Larbeau, qui était le Fermina Marquez. Je lis Valérie Larbeau et il se penche vers moi et il me dit. Vous lisez Valérie Larbeau avec un accent que je ne saurais pas bien imiter. Je lui dis, oui, en effet. Il me dit, c'est un auteur de mon programme et non du vôtre. Bon, très bien. Et puis, on arrive à New York. Et puis, à New York, je vois une énorme limousine s'avancer sur le tarmac pour le chercher, lui. Je lui dis, mais qui est cet homme? Et c'était Horowitz. Ouais. Et il me dit à ce moment-là, voyez ce que c'est, jeune homme. Jouer du piano, devenez célèbre. C'est triste, mais c'est commode. Et il s'en va, voilà.
Il faut toujours avoir un nœud papillon en avion, de toute façon.
Je suis tout à fait d'accord. Et un peu de talent au bout des doigts, quand même. Mais ça, c'est pas donné à tout le monde.
On se retrouve juste après ces quelques messages.
Carina Septi, vous êtes DG de Robert Walters Management de Transition, un succès depuis 20 ans.
Chaque entreprise est amenée un jour à accélérer sa transformation, gérer une crise ou remplacer sans délai un dirigeant. Chez Robert Walters Management de Transition, nous déployons des managers expérimentés pour répondre à vos besoins ponctuels et urgents. Chaque contexte est unique, parlons-en.
Les traders sont comme des chefs d'orchestre. Pour garder la maîtrise, il leur faut de bons outils. Avec le calendrier économique d'eToro et TradingView, vous pouvez trader plus intelligemment. Téléchargez eToro aujourd'hui. eToro est une plateforme d'investissement multi-actifs. Tout investissement comporte des risques de perte en capital. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Pour sa deuxième édition, le festival Angers Pianopolis vous offre le piano dans tous ses états. Dans la douceur angevine, au cœur de lieux patrimoniaux, sublimés par la musique, venez découvrir des talents en devenir et des artistes de renom. Alexandre Kantorov, Lucas Debargue, Paul Lay, Thomas Enko et Vasilena Serafimova, Saskia Giorgini et bien d'autres. Piano classique, jazz, mais aussi marimba, vibraphone ou piano préparé. Angers Pianopolis, c'est du 8 au 12 mai. Tous les détails sur angers.fr/pianopolis.
Dans le cadre des rencontres musicales de Corto, l'École normale de musique de Paris reçoit le jeune pianiste sud-coréen Hyuk Lee pour un récital Beethoven, Liszt et Schumann. Prix Corto 2023, Hyuk Lee a également remporté le premier prix du concours Lontibo en 2022 et fait partie du programme élite de l'École normale de musique de Paris. Venez découvrir Hyuk Lee, lundi 8 avril à 20h, salle Corto à Paris.
Versailles rêvé ou le projet inachevé de Napoléon Ier. Le Grand Trianon accueille Soirée impériale pour Versailles, collection du mobilier national. Une exposition consacrée à l'exceptionnelle commande de Napoléon aux manufactures lyonnaises. 80 km de soieries tissées. Des chefs-d'œuvre de l'âge d'or de la soierie destinés à remeubler le château de Versailles, mis en réserve à la chute de l'empereur, dans un état de conservation remarquable. Soirée impériale pour Versailles jusqu'au 23 juin au Grand Trianon à Versailles.
Bonjour, c'est Avril Thierry. Je vous invite à me rejoindre à Aix-en-Provence pour son festival d'art lyrique. Au programme, deux opéras fabuleux. La Clémence de Titus de Mozart avec la merveilleuse Karine Dehé et Madame Butterfly de Puccini. L'occasion aussi de découvrir ensemble les joyaux de cette région de toute beauté.
Le Festival Lyrique d'Aix-en-Provence avec Ève Ruggieri du 20 au 23 juillet. Un séjour radio classique avec Intermed, le spécialiste du voyage culturel. Réservation au 01 40 08 50 40 ou sur intermed.com.
Nicolas Bouzou nous parle de son livre « La civilisation de la peur ».
Dans ce livre, j'ai voulu montrer comment la peur nous envahit, alimentée par les prophètes de malheur. Une peur qui nous paralyse et nous empêche de voir les réelles avancées de l'humanité.
La civilisation de la peur de Nicolas Bouzou, un livre indispensable pour garder confiance dans l'avenir. Un livre IXO.
Vous êtes bien avec Radio Classique.
Événement. Un archéologue découvre un manuscrit disparu de Chrétien de Troyes. Quel secret révèle-t-il ? Quand cet archéologue est assassiné, Judith, spécialiste du Moyen-Âge, doit élucider ses mystères. Une course folle commence. Et si le manuscrit dévoilait l'emplacement du Graal ? Et s'il se trouvait en Normandie, à Domfront ? Vous le découvrirez avec le Testament du Chevalier d'Arnaud de Lalande. Une quête légendaire entre passé et présent. Le Testament du Chevalier, aux éditions Robert Laffont.
Jusqu'à 20h, conversation chez Lapérouse, avec Frédéric Becbédé, sur Radio Classique.
Nous sommes toujours chez Lapérouse, en train de nous gosser avec François Sureau, sur Radio Classique, pour la publication de « S'en aller », son nouveau livre chez Gallimard, qui est une autobiographie buissonnière, et une flânerie érudite parmi les lectures et les paysages. Dans cette émission, cher François Sureau, vous le savez peut-être, il y a un jeu qui s'appelle Devine tes citations. Je vais vous lire des phrases de vous et vous devez me dire dans quel endroit vous avez écrit ça.
Jetés hors de l'enfance, nous sommes entrés dans un exil qu'il nous faut habiter. Ce voyage est le nôtre et il n'y en a pas d'autre. C'est un piège, hein. C'est pas évident. J'avoue que comme je sais que vous êtes très cultivé, j'ai choisi une phrase difficile.
J'hésiterai entre... Non, je vois pas. D'ailleurs, je me souviens très très bien de la phrase, mais je me souviens pas où je l'ai mise. Est-ce que c'est s'en aller ou l'heure du temps? Je sais pas.
C'est pas dans un livre, en fait. C'est le prompteur que vous avez écrit pour la grande librairie.
Ah mon Dieu!
Oui. Et c'était le 27 mars dernier. Ouais. Et moi, j'aimais beaucoup ça. Jeter hors de l'enfance, nous sommes entrés dans un exil. Parce qu'après l'enfance, vous pensez vraiment que tout le reste est un exil?
Oui, je le pense vraiment, mais pas. Et pourtant, je n'ai aucune nostalgie de mon enfance. Enfin, pas de nostalgie sentimentale pour mon enfance. J'ai une nostalgie, un souvenir très particulier d'une caractéristique pour moi centrale de l'enfance, c'est que ni le passé, qui est le domaine du diable, comme on sait depuis la matière de Bretagne, ni l'avenir, qui est le domaine de tous les idéologues, n'existe. Donc, l'enfant colle au présent. Lui-même, et donc il a une conscience des choses qui me paraît d'une profondeur incroyable.
Oui. C'est pour ça qu'ils s'ennuient vite, les enfants.
Et c'est pour ça qu'ils s'ennuient vite, parce qu'il faut que le présent se renouvelle sans cesse, mais en tant que présent. Et ça, c'est une chose qui m'a toujours apparu fascinante.
Autre phrase que j'ai trouvée dans un de vos livres. À quoi bon bouger quand on peut voyager si magnifiquement sur une chaise?
Aucune idée.
Eh bien, ça n'est pas de vous, mais si vous le citez, c'est de Huysmans dans À rebours. Et je trouve que c'est assez beau, parce que C'est finalement une réponse à la phrase de Pascal, vous savez, tous les problèmes des hommes viennent de ce qui, enfin, je sais plus, ils savent plus rester dans leur chambre.
C'est une chose d'ailleurs, la phrase de Pascal, en fait, il a tort d'ailleurs, Huysmans, parce que il avait ce côté, quoi. Enfin, je veux dire, d'abord, il pouvait pas beaucoup bouger parce qu'il avait pas le minimum d'argent pour bouger, qu'il voulait pas voyager comme un clochard. Donc, en fait, en réalité, il ne voyageait pas beaucoup, sauf dans les monastères. Mais il a tort de penser que sur sa chaise, il y a pire que la phrase de Pascal là-dessus. Il y a une phrase des apophtègmes des Pères du Désert où le grand Arsène dit à un de ses disciples, on croit que notre vie est facile. Assieds-toi sans bouger sur une chaise pendant une journée et tu verras ce que te font les passions. C'est une phrase très jolie, absolument magnifique très jolie. Et très exacte, je trouve.
Mais c'est intéressant parce que vous avez ce paradoxe en vous. Dans S'en aller, le livre s'intitule S'en aller, vous souvenez de beaucoup de vos voyages, mais aussi de vos lectures, et puis ça se termine dans un monastère chartreux.
Ben oui, parce que c'est l'endroit...
Comme Huysmans.
Ou comme Liffermore à Saint-Vendry. C'est quand même l'endroit, d'une certaine manière, où l'enfance se réalise, parce que le monastère est à la fois l'endroit où l'on va, parce qu'il faut tout quitter pour y aller, parce que là-bas, c'est un autre monde, comme dit Jouvet dans Quai des Orfèvres, précisément. Il faut tout quitter pour y aller, et une fois qu'on y est, on est à la veille d'un autre départ. Et spécialement chez les Chartreux, dont la vie représente une sorte de préfiguration de la vie ultime, parce qu'ils sont enterrés dans des tombes sans nom, qui ne reçoivent pas de nouvelles de leur famille, qui sont dans des ermitages individuels. Donc c'est un endroit, en réalité, où le départ et l'arrivée se confondent de manière presque enfantine, dans le bon sens du terme. C'est l'une des raisons pour lesquelles ces endroits me fascinent.
Autre phrase de vous. Cette fois, c'est vraiment de vous. Nous assistons sans mot dire au remplacement de l'idéal des libertés par le culte des droits.
Oui, j'ai dû mettre ça dans un... Vous voyez, comme c'est... On se souvient des choses anecdotiques. J'ai dû mettre ça dans Sans la liberté.
Sans la liberté, en septembre 2019. Ah non, mais moi, je trouve pas ça anecdotique du tout, parce que les libertés publiques ont vraiment tendance à rétrécir à vue d'œil en ce moment. On l'a vu pendant le Covid. Il y a la cancel culture. Alors, je vous pose la question de Lénine. Que faire? Vous êtes un grand avocat, vous êtes engagé pour les libertés publiques.
Oui, enfin, précisément, je suis pas vraiment un grand avocat. C'est-à-dire que j'ai fait beaucoup de droit constitutionnel, parce que le droit constitutionnel est un droit politique. Et quand vous plaidez devant le Conseil constitutionnel, vous allez sortir la déclaration des droits en disant, attention, il faudrait quand même rester fidèle à ce texte fondateur. C'est pas la même chose que d'être un vrai pénaliste. Bref. Que faire? Voilà. D'abord, c'est savoir que ça n'est pas d'hier. La première chose à faire, c'est de se souvenir que nous n'avons jamais aimé la liberté. On a eu peut-être un court moment de liberté entre l'abolition de la torture par Malesherbes et 1792, début 93.
Voilà.
Et à partir de là, notre histoire est une histoire continue de viol des libertés par les régimes politiques successifs que nous avons connus, à l'exception de la troisième avec les grandes lois libérales, si l'on accepte dans la troisième république l'expulsion hors de France de 60 000 religieux qui n'était aucunement nécessaire à la séparation de l'Église et de l'État.
Précise que pendant que vous parlez, on entendait une sirène de police venue nous arrêter pour ce que vous étiez en train de dire.
Voilà.
Les années 68, c'est une libération.
Oui, alors plus récemment, ce qui se passe. Enfin, c'est une libération. Je vais vous paraître affreusement subversif, mais c'est une libération à condition de ne pas se souvenir que le but politique de cette libération était quand même de promouvoir contre le gouvernement du type qui nous avait sauvés du nazisme, le régime dirigé par un des plus grands criminels du XXe siècle, c'est-à-dire Mao Tse-Tung. si vous voulez, on ne peut pas totalement être dupe de toute cette affaire. Oui, mais 68, oui. En termes politiques, c'est l'opposition des partisans du Staline chinois, Mao, oui. Et du Staline russe, les communistes français. Le reste étant jeu d'ombre et de théâtre. Mais je referme cette...
Disons qu'on a eu l'impression dans les années 70 et 80...
Des années 70 à 90,
voilà,
en réalité.
Voilà.
On a eu une espèce de voilà. Je pense que ce qui s'est passé, et c'est pour ça quand vous dites que faire, c'est à mon avis inséparable de la raison pour laquelle tout ça est advenu, parce que de la rétention de sûreté aux interdictions de manifester, aux délits d'opinion de toute nature manipulés par tout le monde, avec les doux noms des autorités judiciaires, enfin ça fait quand même beaucoup. La vraie question, c'est pourquoi est-ce que ça se passe? C'est une question qui me hante, pourquoi est-ce que ça se passe? Je crois que ça se passe parce que, en fait, nous avons absolument perdu confiance dans notre capacité collective à faire sortir un mieux du bordel.
Oui, voilà. Ou même à dialoguer, à discuter. On veut éliminer les adversaires politiques au lieu de débattre.
Mais ça, c'est dû aussi à une chose très particulière, et ça rejoint votre question, que faire? C'est dû à quelque chose qui est la suppression des lieux du débat par la cinquième finissante, en réalité. C'est-à-dire que, en fait, le débat, c'est pas juste débattre à la radio, à la télé ou par journaux interposés, c'est aussi de débattre dans des enceintes politiques. Et la démocratie représentative connaît une crise invraisemblable. Nous avons un régime bolivien où tous les 5 ans, on élit le type qui va nous sauver. Et en fait, nous avons abandonné tous les forums où pouvaient s'organiser les passions populaires pour leur donner un sens.
Vous avez choisi Jean-Philippe Rameau comme troisième choix, et ce sont les Indes galantes. Et j'aime beaucoup les Indes galantes parce qu'il y a dedans un texte qui pourrait remplacer la Marseillaise, à mon avis. À un moment, il y a ceci. « Jouissons dans nos asiles, jouissons des biens tranquilles. Ah, peut-on être heureux quand on forme d'autres vœux ?» C'était Rameau. Merci François Sureau de choisir un compositeur français, quand même, finalement, après Brahms et Schubert. Vous aimez particulairement ce moment-là.
D'abord, je trouve que la mélodie est fantastique. Et puis, les paroles sont extraordinaires et sont une réponse à la fois à votre question sur la contradiction et sur le fait de s'en aller. Parce que la terre, les cieux et les mers nous offrent tour à tour, sans spectacle d'hiver, n'est-il défendu qu'à nos cœurs de goûter les douceurs que verse partout l'inconstance. C'est absolument extraordinaire.
Oui, l'inconstance, c'est la littérature. Je continue mon petit jeu de citations, hein, parce que j'en ai d'autres. Donc, François Sureau, vous avez écrit ceci où les quelques livres que j'ai écrits, j'ai toujours voulu les finir vite.
Je pense que ce n'est pas dans l'heure du temps, pour le coup.
Oui, oui, bravo. Absolument. C'est l'heure du temps en 2020. L'heure du temps, d'ailleurs, c'est une expression d'André Breton. Je cherche l'heure du temps.
Elle est sur sa tombe, au cimetière des Batignolles.
Ah oui. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous aussi, vous voulez... c'est peut-être le projet de votre vie, chercher les pépites qui resteront.
Oui, c'est exactement ça, qui resteront, ou qui nous a des manières dont on peut tirer quelque chose, alors même qu'elles vont passer. Vous savez, comme Clémenceau disait, il y a en moi de l'anarchiste et du conservateur dans des proportions qui restent à déterminer. j'ai toute une partie, comment dire, non pas traditionnelle d'ailleurs, mais tournée vers le passé, le compagnonnage avec un certain nombre de figures du passé. Et puis j'aime ce monde. J'aime ce monde. J'aime le monde moderne. J'en aime tout, les spectacles les plus étranges. Ils m'énervent, ces spectacles, naturellement. Ouais. Mais je leur trouve toujours quelque chose de stimulant. Je trouve que ça n'était pas nécessairement mieux avant. Et je trouve qu'il y a, dans notre époque, au sens large, 20e, 21e siècle, 19e même, je trouve qu'il y a des choses extraordinaires qui nous aident, en fait, en réalité, à passer de l'autre côté sans trop de dommages. Voilà.
Quand on regarde tous vos livres, il y a un tournant. Je vois un tournant en 2013 avec Le Chemin des Morts. C'est-à-dire qu'avant, vous avez publié des romans historiques, La Corruption du siècle en 88, L'Infortune, qui a eu le Grand Prix du roman de l'Académie française en 90, L'Aile de nos chimères en 93. Après Le Chemin des Morts, 2013, plus de fiction. Comme Emmanuel Carrère, vous voyez, Emmanuel Carrère, il avait commencé par des fictions, puis il en a eu marre de mentir, il a décidé de n'écrire que des choses vraies. C'est là où vous faites le livre sur Loyola, Inigo, en 2020, vous écrivez sur Charles de Foucault, sur Blaise Cendrars. Alors, parlez-nous de ce qui s'est passé avec Le Chemin des Morts, en 2013. Parlez-nous de Javier Ibarrategui.
Alors d'abord, c'est un personnage qui est composé, que j'ai composé, à partir de quatre ou cinq réfugiés basques dont j'ai vu à traiter le cas au début dans les années 80 juste après l'arrivée de Mitterrand au pouvoir. Giscard avait, quand l'Espagne est devenue démocratique, Giscard avait retiré le statut de réfugié politique en France aux réfugiés basques au motif que l'Espagne étant devenue démocratique, il n'y avait plus de raison d'eux. Et un certain nombre de ces réfugiés se sont pourvus devant un organisme qui était une sorte de juridiction qui s'appelait la Commission de recours des réfugiés pour demander l'annulation de la décision de retrait de leur statut. Et j'étais le rapporteur de cette formation.
C'était quand vous étiez au Conseil d'État.
C'était quand j'étais au Conseil d'État, dans les 5 ans que j'y ai passé. J'étais le rapporteur de cette formation avec un président assez extraordinaire qui s'appelait Daniel Vidot. Et on a eu à statuer. Et j'étais le seul rapporteur des dossiers basques. Donc c'est moi qui me suis tapé les dossiers basques.
Il faut dire les choses clairement. C'était des gens qui venaient d'Espagne, qui étaient des militants de l'indépendance du Pays basque et qui, s'ils retournaient chez eux, risquaient d'être assassinés, tout
simplement. Et d'ailleurs l'ont été pour un certain nombre d'entre eux, dont celui dont j'ai fait servi de plusieurs pour composer le personnage, mais l'ont été effectivement. Parmi ces gens, il y avait des gens de toutes sortes d'ailleurs. Il y avait des gens qui avaient commis des actes violents, il y avait des gens qui n'en avaient pas commis, qui avaient été simplement des militants.
Vous êtes rendu compte sur le moment que peut-être si votre recours échouait, ces gens-là allaient à la mort?
Non, précisément pas, et c'est tout le sens du livre. C'est-à-dire qu'il y a eu plusieurs choses qui se sont passées. La première chose, c'est que il y a eu d'abord une vraie question, c'est-à-dire quand un État voisin européen redevient démocratique, est-ce qu'on peut continuer à faire comme s'il ne l'était pas? Il y avait une réponse quand même qui était donnée, d'ailleurs par un assez grand nombre de services de police de l'époque, y compris la DST, qui était « ne vous y trompez pas, ils sont devenus démocratiques, mais le ministère de l'Intérieur espagnol de cette époque est quand même extrêmement lié avec toutes sortes d'équivalents de sacs espagnols ». Et qui traqueront les types alors même que le gouvernement serait démocratique. Est-ce qu'on pouvait tenir compte de ça? C'était un vrai sujet. En fait, je pense qu'on n'en a pas tenu compte pour une raison très simple, c'est que nous pensions naïvement que, comme font la plupart des gens auxquels on retire le statut ou auxquels on refuse le statut, ils resteraient en France.
Oui.
Nous n'avons pas cru un instant, et c'est ça le sens du livre, nous n'avons pas cru un instant que quelqu'un prendrait au sérieux nos propres institutions. Que quelqu'un... supprimant le droit de résider légalement en France,
qu'ils allaient rentrer,
qu'ils allaient rentrer chez eux, ouais. En disant mais je ne veux pas être une espèce d'errant sans titre, oui, sur la planète. Je veux dire, je ne peux plus séjourner en Espagne. On m'envoie en France. La France me dit vous ne pouvez plus. Eh bien, je vais rentrer chez moi, quoi, ouais, qu'il arrive. Attitude d'une très très grande dignité dans bien la sûr, relation. Ouais, voilà. Ouais. Mais les Français ne croient qu'à moitié à leurs institutions, puisque eux-mêmes passent leur temps, d'ailleurs, assez souvent à les contourner.
Dieu merci. Les... Voilà. Mais c'est vrai que c'est, donc il y a eu en vous à ce moment-là un changement. D'ailleurs, vous n'aviez pas à culpabiliser pour ça parce que c'était pas du tout votre responsabilité. Il se trouve que voilà, ça a entraîné la mort de.
Et quand je suis allé signer, quand je suis allé signer ce livre il y a quelques années, quand il est paru à Bayonne.
Oui.
Ce livre est traduit en basque, par ailleurs, c'est quand même... Et je suis allé le signer à Bayonne, et puis il y a des gens qui font signer le livre, ça c'est très bien, dans une atmosphère généralement favorable. Et puis à la fin, il y a un type qui vient et qui me tend le livre ouvert et qui me dit « Mettez juste vos signatures, c'est la deuxième fois que je verrai votre signature au bas d'une page. » Et c'était l'un des types qui, lui, était resté. Et c'était l'un des types sur lequel j'avais signé la note d'expédition de la décision.
Alors après, il y a ce livre aussi qui s'appelle « L'obéissance », qui n'était pas non plus une fiction, mais plutôt une reconstitution du transfert en 1918 de la guillotine française en Belgique pour exécuter un condamné. C'est une idée assez folle, mais c'est une histoire vraie.
C'est une histoire vraie que j'avais trouvée dans les mémoires de Bouchardon. Enfin, donc c'est une idée exacte et qui m'a servi pour agiter cette chose que j'ai toujours... qui a à voir d'ailleurs avec mon sentiment d'étrangeté par rapport au monde. Qui est cette espèce d'abîme que j'ai retrouvé par la suite dans les armées d'ailleurs, cette espèce d'abîme entre les grandes décisions qu'on peut prendre pour des raisons politiques admissibles ou pas admissibles, la décision de retirer le statut aux réfugiés basques, la décision d'aller en Afghanistan, la décision d'aller au Mali, etc. Dans le cas particulier, la décision de prêter la guillotine au gouvernement belge. Parce que le roi des Belges...
En pleine guerre, alors qu'il y a des millions de morts en Europe...
Oui, là aussi, c'est comme le retrait du statut. On peut parfaitement comprendre la décision. Le roi des Belges disait, nous faisons la guerre pour le droit. C'était la grande guerre du droit.
Oui.
Et donc, on va pas coller le type au mur. Si c'est la grande guerre du droit, on va appliquer les procédures civiles. On va le faire condamner par un tribunal civil, exécuté dans des formes civiles. Et comme ils avaient plus de guillotine, ils nous ont demandé la guillotine. Enfin, ils l'ont demandé au gouvernement français de l'époque. Oui. Et en fait, toute une part de mes surprises dans l'exploration du monde a toujours eu trait à cet abîme qui sépare des positions générales de principe qu'on peut prendre, bonnes ou mauvaises, et la manière dont elles sont ressenties sous la forme de l'absurdité.
Oui. Et appliquées scrupuleusement.
Par les exécutants qui eux-mêmes, d'ailleurs, ne voient pas, ne pensent pas qu'ils auraient agi différemment s'ils avaient été au-dessus du panier. Mais simplement, ceux-ci s'imposent à eux-mêmes comme... les hasards de la naissance ou les circonstances particulières de la vie et ceci qui est véritablement le mystère de la destinée. Enfin, pour moi, il y en a pas d'autres, me fascine.
C'est même terrifiant parce que qu'est-ce que c'est que la Shoah ? La Shoah, c'est l'application administrative d'une loi assassine. Enfin, si vous voulez, c'est vraiment des gens qui sont très obéissants, justement. C'est pour ça que ce titre était important, et l'obéissance.
C'est vraiment une question qui... Et je crois qu'on ne peut pas, par exemple, défendre les libertés ou s'intéresser aux libertés sans avoir en même temps une méditation un peu approfondie, souvent tragique d'ailleurs, sur les caractéristiques de l'obéissance.
Ensuite, il y a eu L'Or du Temps, qui est ce livre sur la scène. Alors là, en 2020, je précise qu'il est paru en folio. Et vous partez de la source de la scène... jusqu'à son embouchure et c'était marrant parce que en même temps dans ce livre j'ai appris que votre famille avait inventé les panneaux de signalisation.
Oui,
c'est un livre hommage à vos ancêtres,
voyage, quoi. Oui, c'était une histoire assez amusante. Mon arrière-grand-père est un officier d'infanterie qui a pris sa retraite dans la région de Nice, il n'était pas originaire de là. Et qui adorait les bagnoles. Il a donc été l'un des créateurs de la course Paris-Nice. Et puis, il habitait Cimier, dans une rue qui maintenant porte son nom. Et il est descendu chez le quincaillier après avoir lu le code de la route, le quincaillier du coin, en lui disant « Mais j'ai lu le code de la route, comment est-ce que les gens vont savoir s'ils peuvent tourner à droite ou s'ils peuvent tourner à gauche ?» J'ai fait un dessin. Ils sont associés tous les deux, de façon de Dion Bouton.
Vous êtes milliardaire.
Alors, ça prouve un truc tout à fait étonnant, c'est qu'il suffit de deux générations pour réduire à rien une entreprise de ce genre.
Franchement, des panneaux de signalisation, il y en a beaucoup.
On avait pratiquement le monopole des panneaux de signalisation pour la France et l'Empire français. Il y avait nous qui faisions des panneaux en fer, en fer blanc, là, vous voyez. Et Michelin qui faisait des bornes en pierre. Et il a suffi de deux générations.
Quelqu'un qui a déconné, soit votre père, soit votre grand-père.
Ils ont surtout décidé de ne pas s'en occuper.
c'est-à-dire
puisque mon grand-père...
Ils étaient médecins.
Mon grand-père était médecin, mon père aussi. Oui. Donc le truc a été laissé à des gérants qui n'ont pris aucun tournant stratégique utile.
Pourtant, ils fabriquaient des panneaux de signalisation et ils n'ont pas pris de tournant.
C'est quand même extrêmement fâcheux, je suis d'accord.
C'est la déchéance totale. Alors, vous n'avez pas été médecin comme votre père et votre grand-père, mais vous n'avez pas non plus été normalien dans S'en aller. Vous racontez que votre prof de français, vous l'avez déconseillé.
Ah oui, oui, oui.
Que si on est normalien, on ne peut plus écrire. Marc Lambron, qui écoute cette émission, va être très content.
Il me l'avait déconseillé, simplement parce qu'il avait vu que ça ne me correspondait pas. Pas du tout. Et c'est vrai que ça ne me correspondait pas du tout. Parmi les choses que je regrette, il y a certainement pas celle-là, quoi, en tout cas.
Parce que c'est bizarre, parce que vos livres sont très, très cultivés. Et en même temps, on vous a conseillé, quand vous étiez étudiant, de ne pas trop lire, pas trop apprendre comment on fait la littérature.
C'est-à-dire que je suis très content que, pour moi, la chose la plus importante au monde est échapper au psittacisme des concours publics. Vous voyez, c'est-à-dire que c'est ce que m'avait dit mon professeur. Il m'a dit, vous aimez tellement ça que vous n'allez pas vous abaisser à faire argent de ce que vous aimez, mais d'une certaine manière à faire rentrer ce que vous aimez dans le moule de l'université. Ça serait insupportable pour vous et je crois qu'il avait entièrement raison.
Votre choix de jazz, c'est de la soul yiddish, Let's Be Happy, par Giora Feldman. Giora Feldman est un clarinettiste yiddish, et avec son ensemble, il interprétait la Let's Be Happy, mais nous sommes déjà très joyeux ensemble avec François Sureau dans Conversation chez La Pérouse. Donc vous disiez que vous vouliez être un goy errant, mais vous prenez de la musique yiddish.
Ah oui, c'est le côté Luftmensch, quoi. J'adore ça. En plus, j'aime beaucoup Giora Feldman. Il a quelque chose de commun avec Robert Badinter qui n'apparaît pas au premier abord.
Non.
Leur famille venait du même endroit, la Bessarabie roumaine. Et lui est allé. Ils sont réfugiés en Argentine d'abord. Il y a un stream Carlos Gardel dans certaines de ses pièces.
Oui, c'est vrai.
Et puis après ça, il est allé vivre en Israël. C'est un magnifique clarinettiste.
Je voulais vous faire entendre une question d'une personne.
Pour rien au monde, je ne recommencerai ni ma vie, ni celle d'un autre, ni rien. Je ne veux absolument rien recommencer.
Qui c'est qui nous parle là? C'est quelqu'un qui est au téléphone, mais je ne sais pas qui c'est.
C'est une question qui
vous
est posée.
Avez reconnu. C'est quelqu'un qui dit, moi, je ne voudrais jamais rien recommencer. Si c'était à refaire, je ne voudrais pas refaire ma vie. Je voudrais qu'elle soit différente. Bon, c'est Romain Gary, Mais c'est intéressant parce que je voulais vous poser cette question. C'est une question sérieuse. Lui, il n'a pas envie de refaire. Et vous, si c'était à refaire, vous referiez pareil ou pas? Parce que vous aimez tellement vous en aller.
Oui, au fond, je pense que je referai pareil. Et je suis assez content de ce qui s'est passé, au total.
Ah, malgré ça, c'est surprenant.
Ouais, je suis assez content de ce qui s'est passé. Et au fond, oui. Bien sûr, de temps en temps, on se dit... choisir une seule voie, tracer son sillon, être Flaubert dans son gueuloir, etc. Bon.
Ou alors, vous pourriez être au Costa Rica, sur une plage, en maillot de bain toute l'année.
Non, je suis très content d'être né ici, au centre du monde, à Paris, de n'avoir aucune attache provinciale, de me mouvoir dans un esprit qui me permet de mépriser ce que Lévinas appelait les niaiseries de l'enracinement.
Ah oui, oui.
Voilà. Et donc, je suis très content.
Eh bien, écoutez, bravo. Et surtout, merci d'être venu. Et je dis à nos auditeurs et à nos auditrices de lire S'en aller, parce que pour une fois, c'est un livre qui nous prend pour des gens très érudits. C'est agréable. Et même, c'est agréable, quelquefois, quand on ne connaît pas les références, d'aller les voir et d'aller découvrir des auteurs aussi. Donc, S'en aller, qui est chez Gallimard. Merci à toute l'équipe, Philippe Gault, le producteur, Mathieu Roclago à la réalisation, Jérémy Bigori pour la programmation. Et dans un instant, sur Radio Classique, vous avez rendez-vous avec Laure Maison au Festival de Pâques d'Aix-en-Provence pour la retransmission en direct de la Missa Solemnis de Beethoven par le Cercle de l'Harmonie. Merci encore François Sureau pour
merci
cette heure très agréable. Et la semaine prochaine, je recevrai Bruno de Stabenrath. Oui, bon week-end à tous.
Conversation chez La Pérouse avec Frédéric Becbédé en partenariat avec Le Figaro Magazine. Également disponible en podcast.